Europe 1 Social Club. Frédéric Taddeï.
On va retrouver un grand avocat et un grand intellectuel qui vient malheureusement de nous quitter. C'est Thierry Lévy, que j'avais reçu très souvent sur cette antenne. Mais d'abord, je reçois Jean-Claude Kaufmann qui publie « Saint-Valentin, mon amour », un livre sur l'histoire de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et Philippe Randa, l'auteur de « Weidmann, le tueur aux yeux de velours » sur le dernier guillotiné en place publique. C'était en 1939, juste avant la guerre. Claude Kaufmann, qu'est-ce qu'on fait de nouveau depuis le début des années 2000? J'ai l'impression que la Saint-Valentin, dont on va parler dans quelques instants, a pris énormément d'ampleur en France, notamment.
Oui, elle a pris de l'ampleur et en même temps, il y a une espèce de critique de dédain qui monte. Ça fait quelques jours, fait 2-3 jours que le livre est sorti et je me heurte à une sorte de mur du silence et presque du mépris. Il arrive... Par pitié, la Saint-Valentin, non mais qu'est-ce que vous pouvez raconter là-dessus là, franchement.
En France, on n'aime pas beaucoup ça. Oui. On voit ça comme une espèce de taxe sur l'amour que prélève le commerce chaque année à date fixe.
Ça, c'est la grande critique. C'est devenu une fête routinière commerciale, un peu routinière, assez commerciale, mais ça, c'est très récent. On a laissé faire ça, mais c'est pas du tout dans l'esprit de la Saint-Valentin, dans ce qu'elle a été historiquement.
À part ça, les rencontres amoureuses depuis le début du 21e.
Alors, je vous parlais d'Internet. Alors, c'est pas très original. Depuis les années 2000, on sait qu'Internet est arrivé et qu'il a bousculé nos vies. Mais dans les rencontres amoureuses, c'est extrêmement, ça a changé les règles du jeu. Ça a coupé la rencontre en deux temps. Aujourd'hui, alors toutes les rencontres passent pas par Internet. On continue à se rencontrer ailleurs, dans des fêtes, etc. Mais beaucoup de rencontres commencent par Internet. Et donc, il y a un temps Internet, un temps en ligne, où les modalités sont complètement différentes, avec un confort psychologique énorme, parce qu'on peut débrancher quand on veut. Et après, il y a le deuxième temps, évidemment. Là, on se retrouve dans le face-à-face.
Et pour vous, Philippe Randa, qu'est-ce qu'on fait de nouveau?
Qu'est-ce qu'on fait de nouveau? Déjà, une chose, on peut dire ce qu'on veut sur la Saint-Valentin, mais d'expérience, je sais qu'il ne faut pas l'oublier. Et puis, c'est très utile, puisque j'ai, à titre personnel, mon deuxième amour m'a retrouvé grâce à Internet. Donc, moi, je dis pas de mal d'Internet.
Social Club. 21h, 22h. Frédéric Taddeï.
Jean-Claude Kaufmann, vous êtes sociologue spécialisé dans la vie de couple. Saint-Valentin, mon amour, c'est le titre de votre nouveau livre qui vient de paraître aux éditions Les liens qui libèrent. Chaque 14 février, un véritable affrontement idéologique, dites-vous, traverse la planète entre les pros et les anti-Saint-Valentin, parfois violents d'ailleurs.
Oui, alors ça peut surprendre un peu parce que justement, je viens d'en dire un mot. On dit il se passe rien à Saint-Valentin, puis ça ronronne, hein, ça s'est endormi. Il y a un petit caractère un peu obligatoire, surtout pour les hommes hein, qui se sentent condamnés aux travaux forcés de l'amour.
Ça a l'air de dire Philippe Randa. Il faut surtout pas l'oublier.
Ah non, c'est une sorte de déclaration de guerre si on ne fête pas. Mais on dit il y a plus trop de contenu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des enjeux? Oui, il y a des enjeux en France aujourd'hui importants. Et pour mieux les comprendre, justement, le regard sur le reste du monde est très étonnant. Et on voit par exemple que dans une trentaine de pays, la Saint-Valentin est interdite par les gouvernements, les autorités morales ou religieuses ou des groupes d'opposition à l'intérieur, comme en Inde par exemple, hein, c'est les groupes hindouistes qui, mais c'est assez violent, hein, ils vont faire la tournée des cafés pour voir, c'est les femmes hein, qui sont visées surtout. S'il n'y a pas une femme en couple le soir de la Saint-Valentin avec des couleurs qui sont interdites, hein, le 14 février, le rouge, les nounours dans les pays du Moyen-Orient, parce que c'est le symbole souvent de l'amour de la Saint-Valentin, donc il y a une chasse aux nounours le 14. Alors ça peut faire rire comme ça, ça fait pas rire du tout, parce qu'il se passe là, on comprend qu'il y a des affrontements.
Ce sont des raisons religieuses qui poussent un certain nombre... Parce que ça existait aussi chez nous, vous le racontez dans votre livre.
Absolument.
L'Église catholique,
alors on va
c'est
retrouver
profondément
les mêmes critiques, les critiques commodes, commerciales, fêtes américaines, etc. si on gratte un peu, on dit bah, fête chrétienne. En fait, elle n'est pas chrétienne, la fête.
Hein,
mon enquête historique. Non, l'Église s'est opposée à cette fête de la Saint-Valentin. Non, il y a deux raisons dans les pays traditionnalistes fondés sur une religion intégriste. La première, c'est la peur de la liberté de la jeunesse, la peur des libertés sexuelles de la jeunesse, quoi, hein, qu'on contrôle plus trop ce qui se passe, notamment ce jour du 14 février. Et la deuxième peur est plus étrange, c'est celle de l'expression des sentiments. Le fait qu'il faille rentrer dans cette nouvelle logique du fonctionnement du couple. Dans la société traditionnelle, chacun occupe sa place dans une hiérarchie un petit peu des postes. Il y a des sentiments, mais on n'a pas besoin de les exprimer parce qu'on risquerait de rentrer dans une logique qui déstabilise tout l'édifice. Donc ça fait peur et on préfère s'en protéger.
Alors c'est vrai que très souvent, quand on parle de la Saint-Valentin, la plupart des gens croient que c'est une fête qui nous vient des États-Unis et on en dénonce immédiatement le conformisme consumériste. Mais en fait, vous racontez dans votre livre que ça vient de beaucoup plus loin. L'Église, effectivement, chrétienne s'y est opposée. Vous faites remonter au fond au 15 février, ça n'était pas le 14 février, à Rome se déroulaient les Lupercales. Des hommes nus à l'époque fouettaient des femmes partiellement dévoilées.
C'était pas une fête libertine en fait, à Rome c'était une fête religieuse, une fête de la fertilité. De toute façon, les codes de la pudeur n'étaient pas les mêmes. Et ces hommes nus ou semi-nus fouettaient des femmes, pas trop fort, mais les fouettaient quand même. On dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors c'était un rituel de fertilité, ils les fouettaient souvent sur le ventre, dans le cadre de la religion à Rome. Mais sous le regard des premiers chrétiens, ça apparaît comme obscène. Puis il faut dire qu'elles étaient quand même assez joyeuses et débridées.
Il y avait des loteries amoureuses en
oui,
plus.
Oui, alors il y avait le banquet ensuite avec une loterie. Et alors ça c'est à Rome, mais plus largement, parce que c'est encore plus ancien que Rome, il y avait une tradition, j'emploie le mot de carnaval. Le mot de carnaval n'arrive qu'au Moyen-Âge, mais c'est l'esprit de carnaval. Tout est inversé à carnaval, on joue à l'inversion sociale, et notamment dans le domaine amoureux. On est dans une société où il y a un cadre moral très strict, et pour la jeunesse, c'est difficile à supporter. Donc il y a une tolérance autour du mois de février, des libertés amoureuses, des jeux amoureux qui sont plus ou moins tolérés et autorisés, et effectivement, surtout le 15 février. Et là, c'est l'idée d'un pape, le pape Gélase, d'essayer de faire une manœuvre de diversion pour empêcher quand même ces débordements, de faire une fête, mais une fête religieuse, avec des messes, des pèlerinages, etc., la veille, le 14. Mais ça n'a pas marché. En fait, la diversion, au contraire, ce qui se passait tout au long du mois de février va plutôt se cristalliser sur le 14. Et le mot Valentin va être pris dans le langage courant. On va, par exemple, dans ces jeux, on se donnait une identité de Valentin et de Valentine qui permettait les libertés amoureuses.
Les valentinages, comme on
les valentinages. Donc, on va utiliser ce terme parce que ça avait été fixé sur le 14 février.
Et au fond, l'Église chrétienne, catholique en particulier, a fini par triompher de la Saint-Valentin, mais au 19e siècle, après qu'il y ait eu des siècles.
Elle a été aidée par les autorités politiques aussi, c'est-à-dire que la gendarmerie faisait la chasse, comme ça se passe dans un certain nombre de pays aujourd'hui, aux couples qui, essayer de tenter des loteries amoureuses, etc. Il y avait des amendes, hein, des amendes assez salées, hein, très très fortes. Et ces carnavals amoureux, après 2000 ans d'histoire, finissent par disparaître en France au 19e siècle.
Au moment où c'est en train de devenir galant et sentimental d'ailleurs,
voilà,
dites-vous.
Parce qu'il y a une deuxième période, il y a trois périodes dans la Saint-Valentin. Il y a cette longue période des carnavals et puis il y a le tournant poétique. Alors ça c'est extraordinaire, le tournant poétique. Alors c'est une autre origine, ça vient de la poésie courtoise du 12e siècle, mais au 15e ça passe en Angleterre. Et là il y a un nouvel art qui annonce le romantisme. C'est extraordinaire, c'est très fort ce qui se passe autour de la Saint-Valentin. C'est-à-dire que le Valentin va créer un chef-d'œuvre de poésie pour sa belle, et il va l'écrire sur un petit mot qui, les siècles suivants, va devenir une carte postale. Et milieu du 19e siècle, 1944, il y a une carte postale qui est envoyée aux États-Unis.
1844,
oui. Ouais, 1844, pardon. Et là, c'est l'explosion. Les États-Unis qui sont en manque de fête un peu sentimentale, voire spirituelle. C'est un pays de pionniers laborieux. Hein, il y a des fêtes pour l'inauguration d'une voie de chemin de fer, etc. Et là, ils trouvent un truc extraordinaire. Et ils ont l'impression, vraiment, d'inventer la Saint-Valentin.
De toutes pièces.
Mais c'est pas exactement la même. Hein.
Elle est tout de suite commerciale chez les Américains.
Tout de suite commerciale. D'ailleurs, le fait que les États-Unis ne fêtent pas de la même manière que nous. Nous, c'est le couple amoureux. D'ailleurs, c'est devenu un peu normatif et stigmatisant pour les célibataires aujourd'hui. Aux États-Unis, c'est l'amour-amitié au sens le plus large. Les voisins, les cousins, les enfants qui écrivent des cartes pour leurs parents. Et ça, c'est venu d'une décision marketing d'essayer d'élargir la cible.
Oui.
Et vous prenez l'Afrique aujourd'hui, entre Afrique francophone et Afrique anglophone, on ne fête pas la Saint-Valentin de la même manière et ça vient de cette origine.
Alors aujourd'hui, ça représente 17,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires aux États-Unis, dites-vous, Jean-Claude Kaufmann. Ça représente les fleurs, les chocolats, le restaurant, les bijoux, les petits cœurs rouges, tout ça. C'est...
Voir les animaux domestiques, de plus en plus.
Qu'on offre aussi pour la Saint-Valentin.
Oui, non, on fête la fête pour les animaux domestiques.
Ils entrent dans le cadre de la Saint-Valentin américaine.
Saint-Valentin américaine, ouais.
Oui, c'est vrai que c'était une fête à la mode dès le 19e siècle, marketée avec les fameuses cartes de la Saint-Valentin. Ouais. Hein, c'est ça qui a tout déclenché. Ouais. Et au fond, l'intérêt des commerçants, et particulièrement de ceux qui fabriquaient les cartes, c'était qu'on en envoie le plus possible.
Bah voilà, c'est pour ça qu'ils ont élargi la cible. Quoi.
Évidemment. Philippe Randa.
En fait, si je comprends bien, lorsque c'était l'exhibition publique et gratuite, ça scandalisait. Et quand c'est redevenu public parce que commercial, c'était l'explosion et ça a été permis.
Ça a été permis, mais c'est rentré aussi dans une certaine norme. Et notamment en France aujourd'hui, c'est pas l'amour que l'on fête. Effectivement, c'est le couple, c'est l'image du couple amoureux. Et c'est vrai que dans les alignées de table au restaurant, par exemple, c'est pas du tout dans l'esprit de la Saint-Valentin. Il faut mettre en scène le fait qu'on est un couple qui fête la Saint-Valentin, amoureux, qui sait se parler, se regarder dans les yeux. En gros, on essaie d'écraser la table voisine, quoi. Hein. Et ça, c'est pas du tout dans l'esprit. Il faut réinventer la Saint-Valentin. Retrouver son esprit et la réinventer.
Europe 1 Social Club, 21h-22h, Frédéric Taddeï.
Toujours avec Jean-Claude Kaufmann qui publie Saint-Valentin, mon amour. Qui était Saint-Valentin ?
Alors là, j'ai essayé de mener un petit peu l'enquête.
C'est pas facile. Hein. Vous en avez trouvé au moins trois.
Oui. Alors non, il y en a huit qui sont bien répertoriés. Hein. Il y en a un qui permet de lutter contre le phylloxéra, l'autre la maladie des vaches, l'épilepsie. Et donc il y a des Valentins très différents, mais on en repère un malgré tout qui semble être le vrai. Les sources historiques sont extrêmement légères, hein, mais on en repère un qui semble être le vrai. Le problème, c'est qu'il y a une légende qui s'est créée dessus. Hein. Il serait tombé amoureux de la fille de son geôlier. Il lui aurait écrit des lettres d'amour sur des papiers découpés en forme de cœur. Alors ça, de toute façon, c'est avec les codes d'aujourd'hui qu'on a réinventé cette légende. La seule chose qui semble véridique, c'est qu'il a célébré des mariages, hein, des mariages chrétiens, qui étaient interdits par le pouvoir romain, et qu'il a été mis en prison, et qu'il a été exécuté un 14 février. Alors c'est là que son rôle, il va jouer un rôle à cause de ce 14 février, mais il n'a pas été comme ça dès le début, le patron des amoureux, pas du tout, quoi.
Alors Jean-Claude Kaufmann, vous le disiez au départ, aujourd'hui c'est presque un affrontement idéologique qui traverse la planète entre les pros et les anti Saint-Valentin. C'est parfois violent dans un certain nombre de pays plus religieux que les autres, on va dire, comme ça l'a été autrefois chez nous. Mais il y a aussi tous ceux qui détestent la Saint-Valentin en tant que norme sociale. Ce serait une sorte de modèle de comportement obligatoire, tyrannique, cruel pour ceux qui ne sont pas en couple au moment où l'on fête la Saint-Valentin. Il y a eu quantité de films américains, hollywoodiens, qui ont mis en exergue la Saint-Valentin, et y compris d'ailleurs dans ce qu'elle peut avoir de cruel.
Oui, alors pas toujours des films d'une qualité extraordinaire.
Pas
alors,
toujours.
Ça m'aide pas beaucoup face à ce désir de rejet, de pas entendre parler, qui vient plus des hommes quand même, il faut le dire. Hein. Les hommes sont pas enthousiasmés à l'idée de la Saint-Valentin. Il y a un petit décalage homme-femme en moyenne quand même. Hein, parce que il y a des femmes qui souhaitent souhaiterait qu'il y ait plus d'expression sentimentale dans le fonctionnement conjugal. On ne peut pas avoir un couple qui marche à 100% d'expression sentimentale, d'attention à l'autre, d'échange, tout le temps. Ça serait épuisant, fatigant, le couple saute au bout de quelques mois. On a besoin du couple aussi comme lieu de bien-être, de confort tout simple, voire un peu régressif. On regarde un feuilleton un peu débile à la télé, on sait qu'il est débile, avachi dans son canapé, mais on a besoin. Le problème, c'est quand le couple n'est plus que ça, quand ça envahit l'existence, et les femmes sont en demande de plus de ce deuxième temps de la vie conjugale. Et les hommes le savent. Ils savent qu'ils sont pas totalement à la hauteur des attentes du côté féminin. Et du coup, ne pas fêter la Saint-Valentin, c'est un petit peu une déclaration de guerre, d'une certaine manière.
Mais ne le faire que le jour de la Saint-Valentin, c'est
alors,
aussi
oui,
une
mais
facilité.
Attention, parce que dans les critiques, j'essaie d'analyser toutes les grilles des critiques. Les critiques commodes, hein, c'est commercial, mais... D'accord, c'est commercial, le commerce s'en est emparé. Mais le bouquet de fleurs, par exemple, il y a mille manières de l'utiliser. On peut s'en débarrasser du bouquet de fleurs et dire, ça y est, j'ai fêté la Saint-Valentin, je suis tranquille. Ou on peut l'utiliser pour créer un moment où on arrive à exprimer quelque chose, être présent à l'autre. Et dans les critiques, ceux qui disent que moi j'obéis pas aux ordres, je ne fête pas la Saint-Valentin parce qu'on me demande, je fête pas l'amour parce qu'on me demande de le fêter, c'est toute l'année quand je veux. Quand on creuse un peu, on voit que, en général, pas tout le monde, mais en général, ceux qui refusent de fêter la Saint-Valentin ne la fêtent pas plus tout au long de l'année.
Alors moi, j'ai remarqué que depuis le début de ce 21e siècle, où la Saint-Valentin a tendance à s'installer en France, comme elle s'est installée aux États-Unis depuis longtemps maintenant, mais ça n'était pas le cas autrefois, hein, dans les années 70, 80, ça n'a pas du tout l'importance que ça a aujourd'hui.
Alors, elle a disparu les carnavals de la jeunesse, qui étaient plutôt ruraux, hein, c'était dans les villages. Ça a donc disparu au 19e siècle, et la fête est revenue par les soldats américains dans l'après-guerre. Les soldats américains qui ont trouvé une bonne méthode pour draguer les Françaises. Quoi. Vous ne connaissez pas la fête de l'amour. Ils croyaient d'ailleurs être les seuls à connaître. Et pendant 10 ans, là encore, les commerçants, fleuristes, etc., ont essayé de s'emparer, comité des fêtes, etc., pour lancer. Et pendant 10 ans, le lancement n'a pas réussi, hein, parce que la cible n'était pas bonne d'une certaine manière. Et fin des années 50, début des années 60, la Saint-Valentin continue à s'installer. Et aujourd'hui, c'est très étrange, parce qu'on voit à la fois la critique qui monte, et la critique également dans les milieux un peu branchés. Hein, ça fait bien de dire que franchement, et derrière cette critique, il y a un rejet des fois de l'expression sentimentale, de l'expression de l'amour. L'amour
Vous
n'est
êtes sûr
pas...
que c'est ça, que ça n'est pas seulement de, là aussi, de la norme imposée, l'impératif.
Alors il y a ça également, mais je le constate vraiment là, depuis la sortie de mon livre, dans les idées, dans l'air du temps. Ce qui est tendance, c'est plutôt une manière un petit peu, à travers l'humour, un petit peu cynique, pragmatique ou cynique, etc., exposer les bons sentiments et l'amour notamment, ça marche pas très très bien, et alors qu'il y a un désir de cela très profond dans la société d'aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a cette forme qu'a prise la Saint-Valentin, très commerciale, mais si on se détache soi-même du rituel, il va encore plus se vider et prendre cette forme commerciale. Au contraire, il faut le réinventer et s'y investir.
Moi, j'ai l'impression que ça marche notamment chez les enfants aujourd'hui, parce que oui. Ça les incite à se déclarer.
Ah, non, bah
j'ai remarqué ça, les enfants en bas âge, le jour de la Saint-Valentin, ils se sentent obligés de faire leur déclaration à la petite fille, au petit garçon dont ils sont amoureux.
Oui, puis les jeunes couples aussi. Ça, c'est extrêmement intéressant. L'entrée en couple aujourd'hui, on rentre rarement en couple par le mariage, c'est très progressif. On ne sait pas trop quand est-ce que la vie à deux s'installe. J'avais fait un livre autrefois en disant que c'était le lave-linge qui était un indicateur de la vie commune qui s'installait. Et ça vient progressivement dans la tête. Tiens, ça y est, c'est parti. On est ensemble. Et du coup, il y a le désir d'installer un rituel, un rite de passage qui permette de dire, de se dire, de proclamer aux autres, ça y est, on est en couple. Et du coup, il y a des Saint-Valentin. Alors là, il y a du contenu. Là, il y a de la symbolique très fort. Et c'est ça qu'il faut retrouver. C'est cet esprit où on met du contenu, chacun à sa manière, de manière créative, à la Saint-Valentin.
Saint-Valentin, mon amour, c'est signé Jean-Claude Kaufmann. Ça vient de paraître aux éditions Les Liens qui Libèrent.
Europe 1 Social Club, 21h, 22h. Frédéric Taddeï.
Philippe Randa, vous publiez Weidmann, le tueur aux yeux de velours. Alors, qui était Weidmann, Eugène Weidmann, né en 1908 C'était un enfant de la bourgeoisie de Francfort et il fut le dernier guillotiné en place publique. Il avait 37 ans au moment de son procès. Il avait commencé par des petits vols à l'âge de 18 ans. Il sera exécuté le 17 juin 1939 à Versailles à 4h30 du matin en place publique. C'est le dernier guillotiné en place publique. Et cette exécution va se passer dans de telles conditions que Édouard Daladier va ordonner que les exécutions désormais aient lieu à l'intérieur des établissements pénitentiaires.
Le scandale venant d'ailleurs d'un article publié dans Match de l'époque où le journaliste s'était emballé en disant que les bourgeoises de Versailles avaient été trempées leurs mouchoirs dans le sang de la guillotine.
Et on le raconte encore aujourd'hui.
Et on le raconte encore aujourd'hui alors que c'est parfaitement inventé.
C'était vraiment inventé par le journaliste à l'époque.
Oui,
on a parlé d'hystérie collective.
Non. L'exécution, il y a eu des problèmes d'horaire entre le bourreau, le juge qui a ordonné l'exécution. Ce qui fait que la foule s'impatientait un peu avant l'arrivée de Weidmann.
Il faut dire qu'il était 4h30 du matin.
Il était 4h30 du matin, oui. Il faut savoir qu'à l'époque, on avait même donné des autorisations d'ouverture tardive au café pour qu'il puisse, pour que la foule puisse attendre 4h30. Donc, comme ça a dû commencer avec, je crois, 45 minutes de retard, la foule commençait à s'impatienter. Il y a eu un peu de bousculade, mais il n'y a pas eu davantage, quoi.
Et alors, ce que j'ai compris en lisant votre livre, Philippe Randa, c'est qu'en fait, ça n'était pas vraiment public. En fait, il fallait des autorisations pour assister à l'exécution de Weidmann ce jour-là.
On a donné beaucoup d'autorisations, mais il y avait la foule qui venait quand même sans autorisation, quand même qui a grossi. Mais ça a été une affaire qui a tellement eu de retentissement à l'époque qu'évidemment, je pense qu'ils ont voulu restreindre un peu l'influence.
Alors, pourquoi
c'est terrible d'ailleurs de se dire que pour voir quelqu'un se faire couper la tête, il y avait autant d'engouement populaire.
Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel intérêt pour Eugène Weidmann à l'époque? Déjà parce qu'il avait un charme fou, hein, d'où le titre de votre livre, Le tueur aux yeux de velours.
Voilà, ça c'est une expression de Colette qui a écrit sur Weidmann et qui a trouvé cette expression.
Grand écrivain. Elle n'a pas été la seule, hein, beaucoup d'écrivains se sont passionnés pour l'affaire Weidmann à l'époque.
Je cite même Bernanos qui a écrit à une des avocates de Weidmann pour lui dire que lui, du fin fond, avec de l'étranger où il était, il avec des catholiques, il avait prié pour Weidmann, non pas qu'il excusait quoi que ce soit de ses crimes, en disant que en bon chrétien, il prenait sur lui aussi une partie de ses crimes. Alors, ça a eu beaucoup de retentissement. Pourquoi ? Parce que déjà, Weidmann c'est un fait divers, sanglant. Il y a eu 6 crimes. Weidmann est un petit bandit, mais qui n'avait pas la gueule de l'emploi. C'est-à-dire qu'il avait une grande prestance, une certaine intelligence qui était reconnue par tout le monde et qui a commis des crimes minables. Mais minables, ça veut dire que c'était une longue dérive. Toute sa vie a été une longue dérive.
Il vient de la bourgeoisie. Hein,
il vient de la petite bourgeoisie allemande. Mais toute sa vie, il a commis des petits larcins parce que lui, il le disait, il s'embêtait quand il était petit. Donc comme il s'embêtait, il a commis des petits vols. Ses grands-parents qui l'ont élevé l'ont envoyé dans une sorte de maison de redressement, mais pas une maison de redressement très, très dure. Les conditions tout de suite, il s'est arrangé avec et ça lui a permis de faire du trafic en volant des marchandises là où il était. Il les a revendues. Il a commencé à vivre sur un grand pied. Vous savez, c'est un peu comme les joueurs. Les joueurs qui jouent pour la première fois et qui gagnent. Quelqu'un qui n'a jamais joué, il gagne. Il devient un joueur invétéré et après il se fait interdire dans les casinos parce qu'il se ruine. Alors Weidmann, je pense que c'est la première fois, ça a créé chez lui une sorte de sentiment d'impunité qu'il a toujours voulu retrouver. Et ensuite, il n'a monté que des coups qu'il a lamentablement foirés. Toute sa vie est une longue foirade. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel retentissement pour ça ? Parce qu'il est tombé dans un contexte politique qui était celui de l'entre-deux-guerres. Vous imaginez un ressortissant allemand en France qui est venu, qui est parti d'Allemagne avec des réseaux de militants anti-nazis, se retrouver en France, commettre des crimes sanglant de délinquance primaire. Immédiatement, on s'est dit, mais c'est pas possible. Et en plus, le jour où il est arrêté, il avoue tout. Il ne cherche absolument pas à se disculper. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. il a agi sur ordre, il a été manipulé. On ouvre, c'est la boîte de Pandore de toutes les hypothèses. Et alors là, il y a que ça, des hypothèses, dont une de ses victimes, en plus, qui est une américaine. Donc, se greffe sur tous ses crimes sa première victime, Jeanne de Coven, qui est une riche héritière américaine, qui était tombée amoureuse de Weidmann. Et donc, il y a une pression aussi internationale avec les États-Unis pour qu'on sache la vérité, parce que toute l'enquête menée autour de Weidmann, c'est pour comprendre pourquoi il a fait des crimes aussi minables. Alors je ne vais pas en parler de ces crimes minables.
En plus, parce qu'il est, comme vous le racontez, il est totalement indifférent pendant tout son procès à la gravité de ses crimes. Hein. Il reconnaît les faits, il fournit des détails, mais au fond, ça épaissit le mystère.
Il a des complices. Il n'essaye pas du tout de jeter la responsabilité sur ses complices. Pour tel crime, oui, Roger Millon était avec moi, il était mon complice, oui, c'est lui qui a tué avec moi. Ah non, pour les autres, il n'était pas là. Alors, on se demande pourquoi il enfonce un de ses complices pour l'exonérer des autres crimes, donc où il aurait pu remettre
tout en,
une...
Tout en disant qu'il ne se rendait pas forcément compte de la gravité de ses actes et que c'était lui qui était le vrai responsable.
Oui,
toujours,
oui, il admet, alors ça aussi, c'est une prestance, parce qu'il admet tout de suite la gravité de ses crimes, il prend tout sur lui, il reconnaît tout, il n'essaye pas de dissimuler. Et c'est pas du tout l'attitude d'un suspect.
Mais au fond, il reste une énigme encore aujourd'hui, Jeanne Weidmann. Est-ce que c'était un criminel sexuel, un fou sadique, un monstre, alors, un tueur à gages,
criminel sexuel,
espion nazi, hein.
Oui, un espion nazi, évidemment, comme il était allemand. Alors, est-ce que c'était un espion nazi qui venait en France pour déstabiliser le pays en commettant des crimes abominables? Ou, comme il fréquentait les réseaux des réfugiés juifs, est-ce que c'était au contraire des gens qui manipulaient pour faire des attentats, pour montrer que les Allemands étaient des abominables personnages?
Oui, toutes les histoires ont été ouvertes à l'époque.
Surtout que ensuite, alors on s'est mis à éplucher toute sa vie. En Allemagne, il avait fait de la prison, il avait fait son temps de prison, et à sa sortie de prison, on découvre quoi? Qu'il a été reçu par la Gestapo. Que la Gestapo l'avait interrogé avant de le relâcher. Et donc on se dit, ben voilà, c'était devenu un agent de la Gestapo. Et lui dit, pas du tout, pas du tout. C'est la procédure habituelle en Allemagne. Lorsqu'on sort de prison, la Gestapo a un sens politique en France avec la Seconde Guerre mondiale, alors qu'en fait, la Gestapo, c'est la police criminelle. C'est pas du tout la police politique. Et la police criminel, voulait savoir comment ça se passait dans les prisons allemandes. Il voulait avoir des tuyaux, s'il y avait des gens qui cherchaient des évasions. Donc forcément, tous les prisonniers allemands libérés après leur peine passaient dans les mains de la Gestapo, de la police criminelle.
Mais alors, on a un peu oublié Weidmann aujourd'hui, Philippe Randa. Et pourtant, à l'époque, le retentissement est à peu près similaire au procès Landru. Et vous dites d'ailleurs que ça se passe dans la même salle d'audience, lui est dans la même cellule à Versailles. Il y a Maître Moreau de Giafferi.
Les mêmes protagonistes,
l'avocat de Landru est aussi l'avocat de Weidmann. L'huissier est le même. Et la fascination est similaire.
Voilà, sauf que dans l'affaire Landru, on ne parle pas tellement de politique. On a dit qu'on avait monté en épingle l'affaire Landru pour écraser les affaires politiques, mais enfin, lui, Landru, n'a jamais été considéré comme quelqu'un de manipulé par la politique. Weidmann, si. Effectivement. Et vous parliez de prédateurs sexuels. On a beaucoup étudié le cas Weidmann pour savoir si c'était pour des pulsions sexuelles qui pouvaient... Tu sais, on s'est posé la question, est-ce qu'il était homosexuel? Est-ce qu'il était serial killer? Pas du tout. Lui a toujours dit qu'il avait tué quand il avait des raisons de tuer. Mais là, il se serait bon de parler quand même des crimes, des 6 crimes qu'il a fait. Il faut savoir que Weidmann, c'est quelqu'un qui prenait... qui kidnappait les gens... Alors au début, il a cherché des gens riches pour demander des rançons parce que fasciné par le gangstérisme américain, aux États-Unis ça se faisait beaucoup, était un peu fasciné par ça. Bon, et puis il s'y prenait tellement mal évidemment que ça foirait, donc ça marche pas. Donc qu'est-ce qu'on fait d'un otage dont personne veut payer? Eh ben on le tue et puis on lui fait les poches. Et puis après, c'est plus simple, plutôt que de monter toute une opération de kidnapping avec demande de rançon, eh ben on prend quelqu'un et on le tue juste pour lui faire les poches. Et les crimes de Weidmann, une partie, c'est ça. Jeanne de Coven, donc cette jeune Anglaise qui, en fait, est tombée amoureuse de lui, il l'a kidnappée pour lui demander une rançon. Et là, on ne sait pas, justement, et là, ça a développé encore un autre mystère de l'affaire Weidmann, c'est que lui dit, Je l'ai kidnappée pour donc elle est tombée sous mon charme. Je l'ai emmenée dans sa villa La Voulzy, une villa où il habitait, et tout de suite je l'ai droguée. Et puis l'énervement et tout, je me suis fatigué, je me suis écroulé, je me suis mis à dormir aussi. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'elle-même s'était réveillée malgré la drogue et qu'elle tentait de se sauver. Donc je lui ai sauté dessus et je l'ai tué. Le problème, c'est que on se demande si c'est pas invraisemblable, ça, le kidnappeur qui s'endort après avoir drogué sa victime. Donc on commence à se poser des questions. Il y avait des chèques qui ont été encaissés par une femme qui ressemblait beaucoup à Jeanne de Coven après. Donc on se dit, mais non, est-ce qu'elle n'était pas plutôt votre complice? Est-ce que vous n'avez pas vécu une liaison avec elle? Qu'elle-même est rentrée dans votre jeu pour faire cracher de l'argent à ses parents? Et est-ce que... Eh bien, il dit non, il a toujours nié. Sauf que la famille américaine, par le puritanisme américain, jusqu'au dernier moment, jusqu'au matin où on a emmené Weinman pour se faire exécuter, l'avocat de la famille américaine est encore allé le trouver pour lui demander « Est-ce que vous avez eu une relation sexuelle avec Jeanne de Coven ?» Donc ça obsédait les autres, mais visiblement pas Weidman.
Il y aura aussi des rumeurs de projets d'évasion avec des complices à l'extérieur,
oui, parce que
la Gestapo ou Al Capone, dont on disait que c'était le grand ami de Weidman.
Parce qu'il avait été au Canada, il avait fait de la prison au Canada pour des petits larcins minables, mais il était revenu avec une réputation de connaître des grands truands américains. Et quels sont les grands truands américains à l'époque? Tout le monde pense évidemment à Al Capone.
Weidman, le tueur aux yeux de velours, c'est un livre de Philippe Randa qui vient de paraître aux éditions French Pulp. Et l'on va retrouver dans un instant Thierry Lévy, grand avocat. Il l'aurait sûrement défendu, Weidman, à l'époque. Thierry Lévy, on le retrouve dans un instant. Il vient malheureusement de nous quitter.
Europe 1 Social Club,
21h-22h,
Frédéric Taddeï.
Et l'on retrouve tout de suite Thierry Lévy, qui vient malheureusement de nous quitter, grand avocat, grand intellectuel. Je l'ai reçu à plusieurs reprises dans Europe 1 Social Club, mais cet entretien dont on va entendre tout de suite un extrait date de 2008, déjà sur Europe 1. C'était au moment de la parution de son livre le plus personnel, intitulé « Lévy oblige ». On retrouve tout de suite Thierry Lévy. Je lui avais demandé s'il se considérait comme un libre penseur.
Non, je ne me considère pas du tout comme un libre penseur, parce que libre penseur, c'était une expression qui désignait les athées. Il y a beaucoup d'athées aujourd'hui qui ne sont pas des libres penseurs, mais qui sont au contraire des gens très conventionnels et qui suivent l'enseignement qu'on leur a appris sans se poser aucune question. Penser librement est une chose très difficile et j'ai pas la prétention d'y arriver. Je m'y efforce. C'est un travail de tous les instants et par conséquent, j'aurais pas la vanité de me présenter comme libre penseur.
Vous avez surpris, par exemple, alors sans doute à cause de votre nom, on revient à votre livre, Lévy oblige, quand vous vous êtes élevé contre ceux qui voulaient empêcher Dieudonné de jouer à l'Olympia, en dépit du fait que vous n'aimiez pas du tout le sketch qu'il avait fait à la télévision et qui lui valait cette interdiction. Mais vous vous êtes senti obligé. Je me suis souvenu, je crois que vous le racontez dans Lévy oblige d'ailleurs, que votre père, Paul Lévy, qui dirigeait le journal Aux Écoutes, à son retour du Danemark, a donné du travail à Louis-Ferdinand Céline, accusé d'avoir écrit de terribles pamphlets antisémites. Personne ne voulait plus entendre parler de lui en France après la guerre. Et le seul qui lui a donné du travail, c'est votre père, dites-vous.
Ah oui, je dois beaucoup à cet homme.
Vous parlez de votre père, là, pas de Louis-Ferdinand Céline.
Je parle de mon père. Je dois aussi beaucoup à Céline, oui, que je considère comme un des plus grands écrivains français. Et je pense que mon père était de cette opinion-là. Et s'il a fait ce geste que d'autres n'avaient pas fait et que les Juifs n'auraient pas fait facilement, c'est pas seulement parce qu'il avait le sentiment que c'était bien d'aider quelqu'un qui était seul, mais aussi parce qu'il aimait l'écrivain, parce qu'il adorait Céline. Et il avait l'idée qu'un écrivain de cette taille, de cette importance, ne pouvait pas disparaître et devait être aidé.
Vous avez souhaité, à un moment, vous avez eu envie de défendre Maurice Papon. Pourquoi ?
C'est-à-dire que je savais que Maurice Papon ne m'aurait pas demandé de le défendre. Et par conséquent, je ne prenais pas beaucoup de risques en disant que j'aurais accepté de le défendre. Mais le fait est que je l'aurais fait. Et ça, c'est quelque chose que je partage avec beaucoup d'avocats. Il y a tout de même beaucoup d'avocats comme moi qui sont prêts à défendre des causes avec lesquelles ils sont en profond désaccord. Simplement, dans toutes les causes, il y a quelque chose de caché à mettre en valeur. Et naturellement, plus on est en opposition avec la cause elle-même, plus on a la capacité de mettre en évidence ce qui est caché et ce qui fait la grandeur de la cause.
Pourquoi avez-vous choisi d'être avocat ? Vous n'y avez pas pensé au début, vous avez fait de la philosophie, vous avez fait du droit, vous avez fait Sciences Po.
C'était pas du tout ma vocation. Je m'intéressais beaucoup plus à la philosophie qu'au droit. J'aurais aimé vivre de mes rentes, passer mon temps à lire et à aimer, et ça n'a pas été possible. Il a fallu que je travaille, et j'ai choisi ce métier d'avocat, presque par défaut. Simplement, je m'étais dit, à l'époque, que c'était un bon observatoire des contradictions de la société. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait autre chose de beaucoup plus intéressant, qui était de défendre les gens, surtout ceux que l'opinion considérait comme indéfendables. Mais ça, c'est de ma part un peu de vanité, peut-être, un peu d'orgueil. En revanche, se voir confier par quelqu'un la responsabilité de la défense, c'est un don magnifique. Et ceux qui le reçoivent, évidemment, sont amenés à tenter de l'honorer.
Thierry Lévy, je vous soupçonne de préférer défendre les coupables que les innocents. Est-ce que je me trompe ?
Je ne dirais pas cela, mais je pense que c'est évidemment plus facile de défendre quelqu'un qu'on sait coupable que de défendre quelqu'un qu'on sait innocent.
Pourquoi c'est plus facile ?
Mais parce que si vous défendez quelqu'un que vous savez innocent, la peur de mal faire est à chaque instant. Et la responsabilité est énorme. Elle est moindre quand vous êtes en présence de quelqu'un que vous savez coupable. Ce que je dois dire à cet égard, c'est que on ne sait vraiment jamais. On ne sait pas.
Et vous ne voulez pas savoir, peut-être ?
Je ne tiens pas à savoir, mais surtout, je ne tiens pas à forcer les gens à me le faire savoir. Contrairement à une légende, ceux qui ont besoin d'un avocat ne se confient pas nécessairement à lui et ne lui disent pas tout. Ils ont raison, d'ailleurs. Ils ont raison de ne pas toujours faire confiance à leur avocat. Et ils font sur lui une expérience. Et ils expérimentent leur argumentation. Donc, les contraindre à dire une vérité qu'ils ne tiennent pas à dire n'a pas de sens. La seule chose qui compte, c'est la cohérence des faits, c'est la cohérence du dossier, c'est la cohérence des preuves.
Il semblerait, Thierry Lévy, que vous trouvez une humanité aux accusés, aux coupables en particulier, que vous ne trouvez pas dans l'accusation, comme si l'accusation n'était pas humaine.
Je ne dirais pas que l'accusation n'est pas humaine, parce que c'est très humain d'accuser les gens, de les calomnier, de les vilipender. C'est une activité à laquelle nous nous livrons tous avec délice. Donc c'est quelque chose de très humain. Ce que je dirais en revanche, c'est que dans l'accusation, il y a quelque chose de substantiellement mensonger. Car on ne peut accuser quelqu'un, et surtout le traiter comme une personne irrémédiablement coupable, qu'en dissimulant sciemment une partie de la vérité. Et c'est contre ce mensonge que lutte la défense. Car elle sait, elle, comme chacun de nous, elle sait qu'il y a derrière cet aspect noir, cette face obscure, il y a une face lumineuse. Et que cette face lumineuse, elle doit apparaître. Il faut la faire apparaître. De sorte que c'est plutôt contre le mensonge que contre l'inhumanité que la défense doit lutter.
Thierry Lévy, ça fait longtemps que vous comparez notre système judiciaire à l'Inquisition, qu'en vous lisant, en lisant vos nombreux livres, on peut se dire qu'au fond, rien n'est juste dans la justice française. Et puis, il y a eu l'affaire d'Outreau, qui a semblé tout à coup vous donner raison. Tout à coup, plein de gens ont dit comme vous. Comment l'expliquez-vous ? Est-ce que cette affaire d'Outreau vous a semblé bénéfique, en ce sens qu'on s'est mis enfin à réfléchir à la justice ?
Alors, l'affaire d'Outreau a été très maléfique pour ceux qui ont eu à subir une détention qui est apparue ensuite injustifiée. Mais il n'y a aucun doute que pendant un temps court, mais pendant un temps réel, tous ceux qui étaient intervenus dans ce dossier ont admis, ils le savaient, mais ils l'ont admis publiquement, la procédure criminelle telle qu'elle existe dans nos lois était responsable de cette situation. Et en particulier, la cause est connue, c'est que depuis des siècles, on mène l'enquête de la même manière, c'est-à-dire que elle est confiée à un groupe de gens qui travaillent ensemble, qui travaillent en symbiose, en équipe, et qui ne laissent pénétrer aucun élément de contradiction. Alors, ils peuvent avoir raison, bien entendu. Et il arrive qu'ils aient raison. Et puis, ils peuvent se tromper. Et s'ils se trompent, l'erreur est irréparable. C'est fini. Elle a lieu dès le départ. Elle a lieu dans les premières heures de la garde à vue. Et elle se prolonge jusqu'au jugement. Cette situation est apparue clairement avec l'affaire Dutroux. Il y a un aspect bénéfique, indiscutable, c'est que les propositions de la commission d'enquête parlementaire et les lois qui ont suivi ont tout de même apporté une amélioration. Et aujourd'hui, l'égalité des armes n'est pas totale entre l'accusation et la défense, mais c'est une notion qui a pris corps. Elle est entrée dans les esprits. Au moment où je suis arrivé au palais, en 1969, ça n'existait pas. C'est-à-dire que l'avocat était encore un muet à l'instruction. En fait, il n'avait de liberté que de parole au moment du procès. Or, au moment du procès, au moment de l'audience, tout est joué. C'est au stade de l'enquête qu'il faut intervenir. Et je dois dire à cet égard qu'on n'aura pas renoncé au danger de l'inquisition tant qu'on n'aura pas mis fin à la garde à vue. Le vrai chancre qui mine, qui détruit la procédure criminelle française, c'est la garde à vue. La garde à vue, c'est-à-dire des interrogatoires alors que la personne soupçonnée n'a pas connaissance de ce qu'on lui reproche et ne connaît pas les déclarations de ceux qui témoignent contre elle.
Ce qui faisait le plus peur dans l'affaire Dutroux, rétrospectivement, c'est que c'est parce que celle qui avait accusé tout le monde s'est rétractée que tout à coup, tous ces gens ont pu finir par sortir de prison, eux qui clamaient leur innocence.
Vous avez tout à fait raison.
Ça n'est pas venu du système judiciaire.
Vous avez tout à fait raison, et vous avez raison de le souligner. Sans les rétractations de cette femme, la condamnation était certaine.
Donc, c'est il n'avait aucun moyen de s'en
sortir. Aucun moyen. Donc c'est une sorte de hasard heureux qui a permis de mettre en évidence les défaillances. Et quand ensuite on a entendu le procureur de la République de Paris venir faire amende honorable et se repentir en quelque sorte des actes de la justice, on était stupéfaits. Alors que la justice n'était pour rien dans la correction de l'erreur.
Dans un système comme celui-là, si injuste, si l'on vous croit Thierry Lévy, la part de l'avocat semble dérisoire. Ça n'est que de l'héroïsme, ce métier.
Alors, elle est marginale et elle est décisive. Il agit à la marge. Il ne peut pas, sauf dans des cas exceptionnels, modifier le cours de la procédure. Mais s'il ne tente pas de le faire, personne ne le fera à sa place. Et s'il parvient à le faire, ça sera décisif. Donc, c'est quelque chose qui est à la fois très réduit, mais qui a une importance considérable.
Mais qui est héroïque, c'est aussi ça qui vous plaît, j'imagine. Il y a du panache là-dedans, à vos yeux.
Oui, il peut y avoir du panache, mais il peut y avoir aussi le contraire, c'est-à-dire beaucoup d'amertume et de découragement.
Au cours de votre vie, il y a eu plus d'amertume que de satisfaction, plus de découragement?
Du découragement, par chance, j'en ai pas connu, mais ça c'est assez inexplicable. En tout cas, c'est irrationnel. De l'amertume, il y en a eu beaucoup, oui, il y en a eu beaucoup. Mais des moments de joie intense, oui seulement. La joie est toujours un peu corrigée parce que, et c'est un des aspects curieux du fonctionnement de la justice, si une injustice est réparée, on retourne à la normale. On retourne à une situation normale. Donc c'est un faux bonheur.
Quand est-ce qu'il y a du bonheur alors, du vrai bonheur pour un avocat pénaliste comme vous, Thierry Lévy?
Dans le regard de celui qu'on défend.
Voilà, c'était Thierry Lévy en 2008 sur Europe 1. Le livre Lévy oblige auquel nous faisions allusion était paru chez Gallimard. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Jean-Claude Kaufmann, Saint-Valentin mon amour, c'est paru aux éditions Les liens qui libèrent. Et Philippe Randa, Weidmann, le tueur aux yeux de velours, c'est aux éditions French Pulp. Nous, on se retrouve demain dans un instant, c'est Europe Nuit avec Pierre Devineau.